La main verte, c'est maintenant en ligne, loin de nous. Hélas, il est dans son bureau au château de Versailles, dans son bureau du parc de Versailles, la main verte avec Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour
peut-être
Alain.
Loin de vous, peut-être loin de vous physiquement, mais pas loin du cœur, rassurez-vous.
Tout à fait, mon cher Alain, vous nous avez dit il y a tout juste 3 semaines qu'il ne fallait pas confondre argousier et margousier. Explication.
Eh bien oui, je vous le confirme. Et pour ne pas me compliquer mes propos, j'ai directement enchaîné sur le margousier, alors qu'il m'aurait été possible de dire qu'il ne fallait pas non plus confondre margousier et margousier.
Oui, alors ça demande un éclaircissement peut-être, hein,
oui. Oui, quelques éclaircissements. Oui. Il existe 2 arbres appelés margousier, l'Azadirachta indica, appelé aussi Nem, c'était l'objet de ma chronique il y a 3 semaines, et le Mélia azeradac, ou lilas des Indes. Et là, vous vous dites, Pierre, enfin, vous peut-être pas, mais les auditeurs se disent, le lilas des Indes, je le connais, je sais à quoi il ressemble.
Alors là, je sens le piège.
Bien vu. Si le mélia est bien surnommé lilas des Indes, il n'a rien de commun avec celui qui fleurit dans nos régions et que l'on appelle encore lilas des Indes. Vous avez bien compris, il n'y a pas un, mais plusieurs lilas des Indes. Alors celui que nous connaissons est un arbre de dimension modeste. Il atteint généralement 6 mètres de hauteur, fleurit abondamment tout au long de l'été. D'ailleurs, les fleurs sont le plus souvent roses, rouges ou blanches. Et son écorce magnifique est beige, lisse et marbré de rose.
Et depuis quand peut-on en voir en France et d'où vient-il ?
Alors le lilas des Indes qui vit dans nos jardins a été introduit aux alentours de 1760 par le dénommé Magnus von Lagerstroem. C'est un homme d'affaires qui donnera son nom à l'arbre, enfin son nom botanique à l'arbre, le Lagerstroemia indica pour être précis. Alors le lilas des Indes, contrairement à ce que vous pourriez croire, Pierre, eh bien, n'est pas originaire de ce pays, des Indes, mais du centre de la Chine. Il en existe également, sachez-le, 40 espèces et des dizaines de variétés et cultivars. Alors, si le nom de lilas des Indes peut vous induire en erreur, que dire alors de ses autres appellations comme myrte de crêpe, fleur de mousseline ou fleur de papier crépon ? C'est ainsi que certains, aujourd'hui encore, qualifient le lilas des Indes qui pousse sous nos latitudes.
Alain, le lilas des Indes doit-il être taillé pour être beau ?
Je sais que c'est une question assez récurrente. Faut-il tailler tel ou tel arbre pour qu'il porte des fruits ou pour qu'il fleurisse ? Alors, j'aime à rappeler que la nature, souvent, n'a pas besoin de nous. Eh bien, peut-être, excepté notre Lagerstroemia. Alors, si vous avez la chance d'en avoir un dans votre jardin, et je le dis en ce moment, parce que vous parliez des concerts auxquels vous assistiez encore il y a peu, Pierre, et qui ne sont maintenant que des souvenirs, que dire alors de cette passion du jardin qui aujourd'hui est devenue le sport national ? Il y a des millions de Français qui nous écoutent et qui n'ont que pour unique passion aujourd'hui, eh bien le jardinage, c'est au moins le côté positif de cette situation. C'est une maigre consolation, mais elle existe toutefois. Eh bien, si vous avez donc, comme je le disais, un lilas des Indes dans votre jardin, moi je vous conseille à réduire son branchage des 2/3, mais attention, seulement à la fin de l'hiver, c'est trop tard, n'y touchez plus, et n'en plantez que si vous habitez là où l'hiver n'est pas trop froid et ni trop long, cette plante a vraiment besoin et envie de soleil.
Alain Baraton, dans quelques secondes, les réponses aux questions qu'on a reçues pour vous, mais là vous êtes confiné dans votre bureau, dans le parc de Versailles. Décrivez-moi une image très belle de ce parc que vous avez là, que vous avez vu il y a quelques heures ou hier par exemple, Alain.
Que je vois même depuis mes fenêtres.
Allez-y.
C'est un parc étrangement calme, étrangement beau. Le ciel n'est pollué par aucune trace d'avions, car en temps normal, on voit les avions qui vont sur Roissy ou Orly. Un silence est extraordinaire. Il n'y a plus de circulation aux alentours. Les animaux se sont réaccaparés le site. Hier soir, en me promenant, j'ai croisé 2 petits renardeaux qui étaient beaucoup moins surpris de me voir que moi, j'étais de les rencontrer. Les oies ont fait des nids un peu partout. Des bébés cygnes sont nés sur le Grand Canal, 5 petits oisillons, je ne sais pas si on parle ainsi des bébés cygnes. Et puis vous avez ce côté merveilleux de cette nature qui reprend ses droits. Les étendues du domaine de Marie-Antoinette n'ont pas été tondues depuis fort longtemps, vous vous doutez pourquoi. Les pelouses sont envahies de pâquerettes, de boutons d'or, de petites campanules. C'est merveilleux.
Magnifique.
C'est quelque chose de beau, mais malheureusement un petit peu de triste, parce que c'est un plaisir égoïste que les gens qui vivent comme moi dans le parc peuvent en profiter, mais un parc sans visiteurs, ça reste un parc triste.
Question. Et puis, c'est pas la peine de rouler les auditeurs dans la farine. Vous n'êtes pas du tout à votre bureau, vous êtes dans votre lit.
Eh bien, non. Alors, je suis vraiment dans mon bureau.
Oui, le temps passe.
La parole, madame.
les questions pour un labaraton. Laurence, je voudrais planter un bananier devant un fronton de ma maison, exposé plein sud et au vent. Quelle variété dois-je choisir par rapport à la résistance au vent et quand le planter? C'est technique, hein.
Il y a quantité de variétés. Enfin, la liste des bananiers tropicaux qui pourraient être plantés est très longue. Je dirais simplement qu'il faut choisir les variétés qui vont supporter les hivers où les températures ne descendent pas en dessous de 10 degrés. Le bananier est une plante qui est frileuse. Non, je crois que le problème, c'est pas vraiment l'exposition sud qui convient parfaitement à cette herbe, car le bananier n'est pas un arbre, mais c'est une herbe, c'est le vent. Il faut éviter qu'il soit en situation ventée. Donc si on est plein sud avec vraiment beaucoup de vent, soit on met une protection pour limiter les dégâts, soit on ne plante pas de bananier. Le vent amène le froid, le vent dessèche l'atmosphère, le bananier déteste manquer d'eau, par exemple. Donc là, il faut vraiment être prudent. Avant d'installer un bananier plein sud et au vent, on met d'abord une protection pour le protéger du vent.
Mon cher Alain Baraton, on se retrouve demain vers 8h moins le quart sur France Inter.
Avec une joie immense, et je rappelle aujourd'hui à tous les amateurs de jardin que c'est la journée mondiale du jardinage nu. Ça vous concerne aussi, Patricia Martin. On jardine aujourd'hui, mais nu.
Merci Alain. À demain.